Vous le savez, il y a quelques années, je crois que c'était en décembre 2019, on a eu un acte de vandalisme dans notre église avec une effraction, avec le tohu-bohu dans l'église, c'était le chaos. Des cartouches d'encre qui étaient jetées pour assalir les murs, tout qui était renversé. Et la police a attrapé une des personnes qui était suspectée d'avoir fait ça. Et à un moment, on a été convoqué au tribunal où il y avait le juge, le procureur, l'avocat, l'accusé et une salle remplie de personnes qui attendaient eux-mêmes leur procès ou le procès dans lequel ils étaient concernés, peut-être ils étaient plaignants. Et donc c'est une atmosphère vraiment spéciale, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir être dans une salle de cour de justice, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions avec des personnes qui attendent justement de recevoir justice, et des plaignants qui, et des accusés qui sont parfois coupables et qui souhaitent éviter ça. Donc c'est une ambiance vraiment spéciale, et David dans ce psaume nous emmène finalement dans cette salle d'audience et son désir, lui, d'être jugé par Dieu et aussi d'obtenir justice en même temps. Et je vous invite à ce qu'on puisse lire ce psaume qui est le psaume 35. Donc, si vous avez la même Bible que moi, vous pouvez l'ouvrir à la page 379. Et si vous n'aviez pas de Bible, on serait très content aussi de pouvoir vous en procurer une, ou en tout cas de vous l'offrir ou de vous la prêter. Donc n'hésitez pas à lever la main, il y a une personne de l'équipe d'accueil qui pourra vous en donner une. Tout le monde équipé ? Ok, super alors. Alors je propose de faire la lecture donc dans le psaume 35. Tu peux défiler en même temps que moi, s'il te plaît. Et la question qui se pose à nous, c'est « Peut-on demander justice à Dieu ?» Et on va voir dans ce psaume que Dieu sauve et juge. Et on peut crier à Dieu « Dieu, sauve-moi, tu es mon salut. Dieu, jusqu'à quand ? Dieu, juge, s'il te plaît. » Psaume 35. Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent, empare-toi du petit et du grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et déçus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille, emportés par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège, c'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur ruine. Alors, j'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui ? Malheureux, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Des faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des faits que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur la poitrine. Comme un ami, pour un frère, je marchais lentement pour leur deuil, pour le deuil d'une mère. J'étais accablé de tristesse, et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir, ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier. Ils me déchirent sans arrêt. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, combien de temps le supporteras-tu ? Protège-moi contre leurs actes de violence. Protège ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ils sont à tort, mes ennemis. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison. qu'ils ne m'insultent pas du regard. Oui, leur langage n'est pas celui de la paix. Ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi et disent « Ha, ha, ha ! Nous l'avons vu de nos yeux. Éternel, tu as tout vu. Tu ne restes pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi conformément à ta justice. Éternel, mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions !» Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons anéanti !» Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'attaquent à moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à me voir justifié. Ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. Alors ma langue célébrera ta justice et la louange tous les jours. Oui Père, je te remercie parce que tu nous donnes ce texte où David a pu expérimenter ces temps difficiles, ces temps de doute, ces temps où il est accusé, qui vit l'injustice, pour aussi nous enseigner. Que dans ce temps aussi, nous voulons nous attendre à toi, nous savons que tu es ce Dieu qui est souverain, comme nous l'avons chanté. Et je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps où on veut se mettre à ton écoute, que tu puisses nous parler aux uns et aux autres et nous révéler que tu es le Dieu grand et puissant, que tu es le Dieu vers lequel nous pouvons tourner nos regards et vers lequel nous pouvons déverser nos cœurs. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, nous parler, nous encourager et nous donner un élan nouveau, peut-être, pour ceux qui connaissent des temps difficiles. Ou, Seigneur, parle-nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Dieu, mon salut, c'est un peu comme ça que commence David. De David, verset 1, de David éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Et David se trouve dans une situation où on le voit, on dirait qu'il ne peut pas se défendre par lui-même. Il est coincé dans le coin du ring et il se prend les coups. Là. Et il est accusé, il est menacé, il n'a pas d'échappatoire. Et là, il se tourne vers Dieu et il veut se souvenir que Dieu, c'est lui qui a ce grand bouclier. Vous savez, c'est un peu comme dans Astérix et Obélix. C'est les grands boucliers dans lesquels ils peuvent se mettre derrière et c'est comme une armure qui les protège. Et David demande à Dieu de venir, de le protéger, de combattre pour lui. David demande à Dieu de pouvoir se réfugier en Dieu. Et ce matin, si tu vis une situation qui est similaire, tu peux demander à Dieu d'être ton salut. Tu peux lui demander d'être celui qui est ton refuge. C'est une prière peut-être simple, mais Dieu te répondra d'une façon ou d'une autre. Verset 7. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège. C'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. Et là, David est en train de dire, mais en fait, il y a un complot qui se trame contre moi et c'est sans raison qu'il m'accuse. Je ne comprends pas pourquoi. Et je pense qu'il y a des temps dans notre vie où il y a des choses qui nous arrivent et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi on est malade, pourquoi on perd un travail, pourquoi il y a quelqu'un avec qui on s'entendait bien qui nous en veut pour une raison qu'on ne comprend pas. Il y a des temps comme ça. Est-ce que je suis seul à avoir vécu ces temps-là ? Mais est-ce que ça vous est arrivé que malgré vous et sans raison, justement, vous découvrez qu'autour de nous, il y a un monde qui est violent, un monde qui insulte, qui menace, qui agresse, qui accuse injustement ? C'est violent quand on découvre ces choses-là. Et là, moi, je le vois un peu comme un marécage. Et quoi que vous fassiez, ben, ça se retournera contre vous. Si vous vous débattez dans le sable mouvant, bah vous enfoncez encore plus dans le sable et ça vous immobilise au fur et à mesure et à un moment vous vous noyez dans le sable. Mais que faire quand tu es dans le sable, que tu es enlisé, que tu ne sais pas comment t'en sortir, qu'il n'y a personne à côté pour te tendre une corde, une main. Que faire ? Je pense que là, on peut justement demander à Dieu son discernement. Discerner nos cœurs, discerner nos motivations, nos actions à la lumière de la Bible. Mais il faut savoir que, et je pense que c'est un prérequis, parce que parfois on se dit que comme on est chrétien, tout ira bien, que parce qu'on fait du bien, tout ira bien. Mais il faut savoir que nous vivons dans un monde qui est rempli de péché, qui est rempli d'égoïsme, mais que Dieu est là, il est souverain quand même. Et nous ne comprenons pas toujours les actions et l'hostilité de personnes envers nous. Et parfois, on peut vivre ça avec des personnes qui nous sont très proches. Parfois, ça se produit même dans un couple. Parfois, dans une famille, entre les parents, les enfants, même dans l'église, vous vous rendez compte? Et je crois que nous vivrons tous un jour le fait d'être accusés injustement. Et ces textes sont là pour nous encourager dans ces moments-là, mais aussi nous préparer au jour où ça arrive, qu'on n'ait pas l'impression d'être le premier. Et là, on voit aussi par rapport à la situation de David. Hein, David, donc, c'était un roi, c'était quelqu'un aussi qui était un chef de guerre pour sa nation. Et la visibilité apporte de la haine. On le voit sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui commence à être visible, il a des followers, il a des likers, et il a des haters, des personnes qu'il déteste. Et parfois, pourtant, c'est juste quelqu'un qui partage une recette de cuisine. On le voit aussi pour des personnes qui sont un peu différentes, peut-être parfois qui ont un handicap ou qui réfléchissent différemment, ou parfois, tout simplement, il y a besoin d'un bouc émissaire. Combien d'enfants sont harcelés à l'école sans raison ? Ils doivent parfois déménager, parfois changer d'école. Et pour un disciple de Jésus-Christ, bah là aussi, tu peux être confronté à cela, alors que finalement, bah, toi, tu voulais juste faire du bien autour de toi. Peut-être on te haïra parce que tu as témoigné de ta foi en Jésus. Quelqu'un te dira, j'ai connu des jeunes qui ont rencontré Christ, et leurs parents leur ont dit de partir de la maison, alors qu'ils n'étaient même pas majeurs. Pourquoi ? Si tu prends des responsabilités dans l'Église et que tu appliques la parole de Dieu, bah, par moment, tu auras de l'hostilité alors que tu fais ce qui est juste en fonction de ce que dit la Bible. Est-ce que c'est nouveau ? Et Jésus lui-même nous prévient de cela en Jean, au chapitre 15, au verset 18. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui dit cela à ses disciples, quelques instants finalement avant d'être crucifié, d'être abandonné par tous. Et il le dit pour toi et pour moi aujourd'hui aussi. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous fait pas un peu bizarre quand vous arrivez sur des psaumes comme ça, des psaumes où « casse-leur les dents »,« punez-les »,« tends-leur des pièges », et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous les lisez ? Pas toujours. Mais comment on fait avec ça ? Parce que c'est Jésus quand même qui dit « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et dans ce psaume, verset 1, « Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu et qu'ils y tombent dans la ruine. » Quelqu'un a une idée ? Ok, œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que c'est que l'époque ? C'était avant que Jésus vienne. Ouais, c'est vrai que quand on arrive sur ces psaumes-là, c'est pas simple. Et justement, je propose quand même de donner quelques éclairages, pas juste de dire bon dimanche à tout le monde. Je vais vous enfoncer quand même d'abord avant. Vous êtes d'accord que les psaumes, ils sont faits pour que tu puisses les prier. Donc ça veut dire que ce psaume-là, tu dois pouvoir le prier à Dieu. Tu dois même pouvoir le chanter. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un psaume comme ça? Est-ce qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament? Et je pense que là, je vais toucher quelque chose d'assez particulier, mais je pense qu'on a besoin de l'entendre de temps en temps. C'est qu'on a souvent la tentation de vouloir tout lisser pour que ça soit tout harmonieux et que ça corresponde à quelque chose où on est bien dedans. Et dans la Bible, Dieu place volontairement des tensions pour que tu sois en tension, pour que tu te poses des questions, pour que tu demandes à Dieu le discernement. Pourquoi ? Parce que Dieu veut t'amener à grandir dans ta maturité spirituelle, veut t'emmener à grandir dans ton discernement aidé par le Saint-Esprit. Alors, faut-il rester dans ta colère lorsqu'on t'accuse injustement, lorsqu'on te fait des croche-pieds, qu'on te persécute? Est-ce qu'il faut vivre dans ce faux semblant hypocrite? Ah, je suis chrétien, rien ne me touche. Ou est-ce qu'il faut confesser à Dieu les sentiments qui nous habitent et qui sont là? À qui il faut les confier plutôt qu'à Dieu? Parce que parfois on fait « Ah là, Dieu m'a secouru, j'ai eu cette paix-là. » Et par contre, après, on a dit tout ce qu'on pensait à quelqu'un de physique devant une bière ou un café. Mais non! Commence par dire ce que tu as vécu, ce que tu ressens à Dieu. Je pense c'est ce que David nous apprend justement. Tu as le droit d'avoir des émotions, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais donne-les à Dieu. Jusque-là, tu n'as rien péché encore. Si tu confies à Dieu ce qui est sur ton cœur, c'est là où justement tu peux te confier et dire « Ok, je sens tout ça, mais je compte sur ta justice. Je demande que tu m'apaises et je te demande, s'il te plaît, de me donner cette capacité surnaturelle de pardonner. » Mais il y a des étapes à cela et pardonner, pour avoir coché sa case, et continuer à pourrir de l'intérieur, c'est pas ça bibliquement. Et donc, voilà, livre tes sentiments à Dieu et tu peux demander à Dieu la justice. Il est possible d'aimer ses ennemis tout en demandant à Dieu sa justice. De confier que c'est pas soi-même qui se venge. Et même dans l'Ancien Testament, je tiens à le dire, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est toi qui casses la dent et c'est toi qui crèves l'œil. C'est la justice. C'est le tribunal de l'époque, en fait. Hein. C'est comme il n'y a pas si longtemps en France, hein, dans les années 80, il y avait encore la peine de mort. C'était pas la personne qui avait perdu quelqu'un qui allait tuer la personne. Hein. C'était l'État français qui appliquait la justice qui était dans son code civil. Pénal, enfin, voilà, pour les juristes, excusez-moi. Donc, ne cherche pas ta propre vengeance ou ta propre justice, mais demande la justice à Dieu. Il est possible de demander à Dieu qu'une personne ne prospère pas dans son crime. Dieu peut arrêter la personne dans son autodestruction et l'autodestruction qu'il y a autour d'elle. S'il y a quelqu'un qui persévère dans le vol, tu peux demander à Dieu qu'elle arrête de voler et qu'elle arrête de pourrir la vie des gens. Tu as le droit. Il est possible de livrer son cœur et ses sentiments à Dieu, de déverser son cœur à lui dans cette intimité que tu as avec Dieu. Tu peux être vrai. Tu n'as pas besoin de jouer sur les apparences ou de faire le super chrétien. Mais Dieu se servira de ces temps-là pour sonder tes pensées ton cœur, te transformer, te décharger.
Il y a quelques mois, donc ça fait à peu près un an, je pense, en fait, on était avec plusieurs pasteurs, puis aussi les jeunes qui étaient là. Alors, l'intervention était un peu spéciale, hein, je l'avoue, mais il y avait un missionnaire anglais en Ukraine, marié à une Ukrainienne, qui nous racontait comment ça se passait dans son église depuis l'invasion russe. Et il expliquait les tortures, les viols, les massacres, ainsi de suite, des membres de son église. Des personnes qui étaient assis, comme nous aujourd'hui, à ta gauche, à ta droite, un jour ils n'étaient plus là où ils étaient mutilés. Et ils étaient fâchés. Et ils demandaient à Dieu sa justice, que ça s'arrête, que les coupables soient punis par Dieu, selon la justice de Dieu. Et en Romains 12, verset 19, justement, je pense qu'il y a cet éclairage du Nouveau Testament, peut-être quand même pour ceux qui sont peut-être encore un peu réticents entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il dit cela, « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Dieu est lui aussi en colère contre le péché. Et aujourd'hui, il est dans ce temps de patience où il nous laisse à chacun le temps de se réconcilier avec lui, de se repentir, de lui demander pardon, de changer de vie. Mais Dieu est en colère et il retient ces vases qui sont chargés de sa colère, c'est écrit dans Romains, pour que tu aies le temps ce matin de te réconcilier avec Dieu, si ce n'est pas encore le cas. Alors mes amis, ne jouons pas aux chrétiens parfaits, aux super chrétiens qui n'ont pas d'émotions, qui n'ont pas de frustration, qui n'ont pas de lutte. Dieu vous voit au-delà des apparences. Soyons authentiques devant lui, crions à Dieu, n'hésitons pas. Dieu n'a jamais reproché à Job d'avoir crié à lui, de lui avoir demandé « Mais pourquoi ?» Et ce qui est particulier dans ce psaume, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a trois cycles où David dit « Voilà, je vis l'injustice, agis pour moi » et à chaque fois, il revient un temps de louange. Verset 9 « Alors j'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. » À chaque fois que David demande à Dieu d'intervenir, il est déjà dans ce temps où il prépare sa réjouissance, parce qu'il sait que Dieu l'entend, et que tôt ou tard, dans ce monde ou le monde à venir, Dieu agira et sa justice s'accomplira. Et même dans le doute, même si la situation n'est pas encore réglée, David parle au futur, et trois fois au futur. Nous pouvons faire confiance à Dieu, même si ce n'est pas aussi rapide que l'on souhaiterait. Et nous pouvons déjà célébrer Dieu, exulter notre joie de savoir que Dieu, il est tout puissant, il est au-dessus de ces situations-là, il est au-dessus de notre peine. Il est avec toi dans tes doutes, dans tes pleurs, dans tes chagrins. Et un jour, la délivrance sera là. La justice de Dieu s'appliquera. Et tu peux dire ce matin déjà, Dieu est mon salut. Tu peux le dire même à ton voisin, Dieu est ton salut. Et puis on voit que David, là, il est quand même un peu pressé. Et finalement, sa réflexion, c'est, mais Dieu, jusqu'à quand ? Et il nous parle d'abord d'une trahison, et ça, c'est dur pour lui. Verset 11, « Des faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des faits que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme, par le jeûne je priais, la tête penchée sur la poitrine, comme pour un ami, pour un frère, je marchais lentement, comme pour le deuil d'une mère, j'étais accablé de tristesse. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier. Ils me déchirent sans arrêt. » Le bien ne te procurera pas toujours le bien. Nous pouvons manifester de l'affection, de l'empathie, souffrir avec, le considérer comme un frère. Soutenir dans la maladie, le deuil, avoir de l'amour, le considérer comme un frère, comme un ami. Et pourtant, ces personnes peuvent nous calomnier, déchirer nos cœurs, nos vies, tenter de voler notre joie, notre espérance, même nous accuser avec de faux témoignages et même trouver des faux témoins pour nous accabler, nous interroger sur des situations que nous ne connaissons pas ou que nous ne comprenons pas. Alors que vous, de tout votre cœur, de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, vous avez pratiqué le bien, vous avez pratiqué l'amour envers ces mêmes personnes, et désormais ils cherchent à vous anéantir. Est-ce que ça n'est arrivé qu'à David, ça ? Et autant, il y a des personnes qui peuvent être fâchées avec Dieu, fâchées avec l'Église, et qui diront, mais comment est-ce possible que des personnes qui se disent chrétiennes commettent de telles actions et de tels comportements ? Vous l'avez déjà entendu, ça ? Est-ce que vous l'avez déjà pensé ? Ou alors, comment est-ce que Dieu tolère qu'il se passe cela dans son Église, dans sa maison ? C'est pas normal ! Et là, j'ai envie de te rappeler quelque chose. Jésus aussi a été trahi et abandonné. Au moment où il en avait le plus besoin. Il emmène quelques disciples pour prier avec lui avant d'être arrêté. Ils s'endorment tous. Pierre qui disait « Je vais mourir avec toi !» Il renie trois fois Jésus, il se barre. Un disciple, il abandonne ses vêtements pour courir plus vite, tout nu. Qui était après au pied de la croix à voir Jésus souffrir ? Jésus l'a vécu. Et si Jésus l'a vécu et a accepté de souffrir pour toi et pour moi, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, il peut aussi te dire « Je l'ai vécu, je suis avec toi dans ce temps-là. » Ne t'en fais pas. Dieu a pourvu pour Jésus, il pourvoira pour toi. Et David arrive justement à ce temps où il dit « Mais jusqu'à quand ?» Verset 17. « Seigneur, combien de temps le supporteras-tu ? Protège-moi contre leurs actes de violence. Protège ma vie contre les lionceaux. » Il y a des situations, on a beau dire « Je fais confiance à Dieu », on en a marre, on n'en peut plus, on n'a plus de ressources. Et dans ces temps-là, nous pouvons crier « Jusqu'à quand ? Sauve-moi, j'en peux plus !» C'est le cri d'un homme désespéré, mais qui fait confiance en Dieu parce qu'il sait que c'est seulement Dieu qui peut intervenir. Mais encore là, David est déjà dans ce temps de réjouissance, au verset 18. « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ils sont à tort mes ennemis, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils ne m'insultent pas du regard. » David termine encore une nouvelle fois dans la louange, mais David, là, il comprend quelque chose qui est essentiel. David se rappelle « Je ne suis pas seul ». Il y a des frères et des sœurs qui, eux aussi, font confiance à Dieu, qui adorent Dieu, qui demandent la justice de Dieu sur leur vie, pour leur Église. Et c'est là toute la différence avec... Vous connaissez Élie ? Donc Élie, il a fait quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu, et puis à un moment, il se sent seul. Il pense que tous les autres prophètes, tous les autres fidèles ont été tués, qu'il ne reste que lui. Et là, il commence à commencer une vraie déprime. Il est en train de mourir intérieurement, en fait. Et c'est là que Dieu le relève en lui donnant à manger, à boire, il l'emmène au calme. Et à un moment, Dieu lui dit, « J'ai sauvé 5000 personnes qui me sont fidèles. » Alors qu'Élie pense être le seul. Il y a d'autres personnes qui sont encore là, qui demandent la justice de Dieu, qui comptent sur Dieu, qui adorent Dieu. C'est pour ça, quand tu as un temps de mou comme ça, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes qui adorent Dieu, qui font confiance à Dieu. Et Dieu est avec David, Dieu est avec toi. Mais il aussi avec cette assemblée nombreuse d'adorateurs de Dieu, où je pense beaucoup parmi nous en font partie. Adorer Dieu, c'est le but de leur vie. Donc tu n'es pas seul, même si c'est imparfait, à côté de toi, il y a des personnes qui aussi font confiance à Dieu. Et c'est un appel vraiment solennel. C'est quelque chose que je dis régulièrement. Si tu traverses des temps de difficulté, ne t'enferme pas dans ton coin. Ne t'enferme pas dans ton coin. Dieu a placé des gens à tes côtés. Et tu peux poser cette question, Dieu, jusqu'à quand ? Mais Dieu juge, et on peut demander sa justice. Verset 22, « Éternel, tu as tout vu, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, et réveille-toi, lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi conformément à ta justice, éternel, mon Dieu. » David demande la justice de Dieu. David dit, je me présente de moi-même devant ce tribunal et je demande à Dieu la justice pour ma vie. Qu'il me sonde. Juge-moi conformément à ta justice. Juge-moi conformément à ce qui est écrit dans ta parole, qui est écrit dans la Bible. Et c'est là où je pense qu'il y a un élément qui est important. Le droit auquel nous devons faire appel en tant que chrétiens, c'est le droit biblique qui se trouve dans la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser tribunaux de notre État. Hein. Mais je dis que quand il y a quelque chose à régler, commençons par analyser notre cœur, nos sentiments, nos actions à la lumière de la Bible. Mieux, Dieu nous donne tous les enseignements nécessaires et utiles et suffisants pour accomplir sa justice dans notre vie, dans notre famille et dans notre Église, dans la Bible, pour discerner les situations. Et ça, c'est essentiel. Dans notre Église, nous avons choisi cette valeur qui dit « Nous nous soumettons à la parole de Dieu pour nous diriger ». C'est essentiel. C'est un choix de compter sur Dieu et sa justice. Parce que nous savons que c'est dans la justice de Dieu qu'il y a toutes les bénédictions. Si nous cherchons ailleurs que dans la Bible comment vivre pour Dieu, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Si on dit « Ah, mais en fait, eux aussi, ils font ça. » Lui, il se dit chrétien, mais il le fait. Pourquoi moi, je ne le fais pas ? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que dit la Bible ? C'est là où se trouve la bénédiction. C'est là où se trouve la volonté de Dieu. Et justement, il y a cet équilibre entre la justice de Dieu, ce que Dieu nous demande dans sa volonté, qui est révélé dans la Bible, et la grâce. Et il est question d'appliquer la parole de Dieu, mais dans la grâce. Il y a un temps aussi pour mettre les choses en règle. Combien de fois on s'est imaginé qu'on a compris une vérité biblique et on fait comme ça, pac, et on est transformé. T'as un problème d'addiction, tu fais « Seigneur, je me repens, je veux changer », et hop, c'est réglé. Ça vous est déjà arrivé ? Parfois, ça arrive, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. C'est la même chose, vous vivez dans... il y a des choses qui prennent du temps à être réglées, mais quand on fait ce choix de dire « Seigneur, je vois ce problème, je compte sur toi pour changer cela, je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur le fait que tu me soutiennes en cela, je me repens, mais je compte sur tes forces. Même si je chute, je compte sur toi pour me relever. » Et c'est ça la grâce. Et c'est ça dont nous avons besoin. Sinon, nous restons dans des choses qui sont des apparences. Ne soyons pas dans les apparences, soyons vrais, mais comptons sur la grâce de Dieu et appuyons-nous sur la volonté de Dieu. Enfin, verset 27, « Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à me voir justifié. Ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. Alors, ma langue célébrera ta justice et la louange tous les jours. » Et David prie que ceux qui font confiance à Dieu se réjouissent des jugements de Dieu, de la restauration de ceux qui sont accusés injustement, de ceux qui sont calomniés injustement. Et David, au fur et à mesure de ces cycles où il demande la justice à Dieu ou de la louange, il ne reste pas centré que sur lui. Il ne reste pas centré que sur ses difficultés ou son mal-être, mais il regarde à Dieu et il sait qu'il y a des personnes autour de lui, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Et il arrive progressivement à voir la gloire de Dieu et à dire « Nous voulons ensemble voir la gloire de Dieu. » Est-ce que nous voulons cela, nous ? J'ai entendu un « Amen » par là et un par là-bas, je crois. Nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est le but de notre vie. même si c'est difficile. Et là, je redis encore une fois, ne reste pas isolé. Ne reste pas dans le fait de vouloir conserver des apparences. S'il y a un problème, parle-en à un responsable. Parle-en au pasteur. Pour regarder ensemble qu'est-ce que dit la Bible. Prier ensemble, être soutenu. Combien de personnes ont dit « Je reviendrai quand j'aurai réglé tel problème ». Ça fait des années, je ne les ai jamais revus. Reste avec l'Assemblée de Dieu. Et c'est vraiment aussi une question de maturité spirituelle dans notre Église. Respectons la justice biblique et comptons sur la grâce de Dieu, la justice de Dieu, parce que Dieu est le seul juge. Et sa parole, c'est notre boussole. Dieu sauve et juge. Et nous pouvons dire, Dieu, tu es mon salut. Dieu, jusqu'à quand je vais vivre ça? Dieu juge cette situation. Juge-moi. Et je vous invite à la prière pendant ce temps que l'équipe de louanges s'installe. Je vous invite à peut-être juste prendre 30 secondes pour réfléchir à ce que Dieu peut-être vous a dit ce matin. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas en paix ce matin? Une situation où vous connaissez de l'injustice? Peut-être vous avez pu connaître du harcèlement? Peut-être il y a des choses que vous devriez avoir mais qu'on ne vous a pas données? Des choses qu'on vous a volées? Choses où on vous a accusé injustement. Peut-être on vous a fait extrêmement souffrir. Ce matin, je vous invite à confier cela à Dieu. À confesser que Dieu, c'est votre défendeur. C'est lui qui va vous protéger. Mais c'est aussi lui qui va vous juger et juger cette situation. Et même la personne qui vous fait du mal. Vous pouvez le confesser. Ce n'est pas mon combat, mais c'est le tien. Je te fais confiance. Et Père, je te remercie de nous avoir laissé ce texte qui nous montre qu'il y a des temps difficiles, des temps où on souffre, des temps où on peut prier, ne pas voir directement de réponse de ta part, pas de changement de circonstances ou de personnes qui se repentent ou qui arrêtent le mal. Mais je te remercie parce que tu nous montres cet exemple d'une personne qui veut te faire confiance, qui sait que tu es ce Dieu qui est souverain, ce Dieu qui aura le dernier mot. Peu importe ce que nous vivons, peu importe qui nous avons en face de nous, tu es ce Dieu qui juge, ce Dieu qui déteste le péché. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, ce matin, de pouvoir peut-être décharger ceux d'entre nous qui ont accumulé des rancœurs, une fatigue émotionnelle. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses prendre cela, que tu puisses donner ta paix et ta joie qui est surnaturelle. Et cette ferme assurance que tu es Dieu, Dieu dans toutes les situations de nos vies, dans nos combats, tu es présent. Tu es celui qui se bat pour nous. Merci, parce que tu es ce Dieu en qui nous pouvons déposer tous nos fardeaux et te faire confiance. Nous savons que tu es ce Dieu qui est avec nous à chaque instant et que tu ne nous lâches pas, tu campes avec nous comme on l'a vu la semaine dernière. Mais nous savons aussi que tu es ce Dieu qui, dans le monde à venir, dans ton royaume, lorsque toute chose sera restaurée, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de grincements de dents, plus de maladies, plus de deuil, plus de méchanceté. Combien nous aspirons à ton royaume, à ta justice. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de nous donner vraiment cette joie de savoir que toutes tes paroles s'accompliront et que nous serons à chaque instant dans ta présence, dans ta joie, dans ta famille, dans ta maison et que ta justice sera proclamée et établie. Mais je te prie, s'il te plaît, aussi pour les personnes qui peut-être nous ont fait du mal à un instant ou à un autre, que là aussi tu puisses permettre qu'ils puissent te rencontrer. Que là aussi tu puisses faire ce changement que nous avons pour la plupart expérimenté, d'un changement complet de notre façon de voir les choses pour vivre pour toi et non pour nous, non pour des crimes, mais pour faire du bien. Et Seigneur, c'est ce que nous te prions pour ces personnes qui nous ont fait tant de mal. Nous te les confions et nous te demandons que ton œuvre s'accomplisse. Nous te demandons ta justice. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.